Le thème que j'ai dans mon cœur, que le Seigneur a mis dans mon cœur, celui-là, je peux vous le dire, il a vraiment mis dans mon cœur, puisque j'avais mon thème, et juste, dernier moment, non, dans ce que j'avais préparé, juste quelque chose a émergé, et c'est cela que j'ai étoffé pour vous. Le Seigneur nous connaît, il sait pourquoi. Pour l'introduire, je vous rappelle ce que vous savez. Nous sommes dans une époque compliquée, difficile. Les infos, vous les suivez autant que moi. Nous savons que le Seigneur est proche. Ce qu'il a dit, ça se corse de plus en plus. Nous ne savons pas le jour, nous ne savons pas l'heure, mais nous devons toujours être prêts. Cela étant, nous voyons qu'en attendant, qu'est-ce que nous constatons ? Nous voyons qu'il y a quelque chose qui est déchaîné. Nous voyons que le mal, que les ténèbres augmentent. Il y a l'Église, bien sûr. Nous sommes la lumière. Nous recevons la lumière de celui qui est la lumière du monde, qui est Jésus-Christ. Mais cela étant, nous voyons quand même que quelque chose se corse. Nous voyons qu'il y a des problèmes. Nous voyons une certaine manipulation. Et notamment, on dirait que on ne sait pas qui, on veut nous faire peur. On veut que nous soyons déstabilisés. Alors, un enfant de Dieu, il faut qu'il prenne garde. Et nous allons donc lire ensemble. Nous commencerons par Romains. Tournez les pages, s'il vous plaît, dans l'épître de Paul aux Romains. Nous lirons beaucoup, hein. Je vais vous prévenir. Romains. Chapitre 12, chacun lira dans sa version, c'est exprimé différemment, mais c'est la même chose. Romains 12 et verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Un peu plus loin, Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplissez de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et nous lirons plus loin 1 Pierre. Première lettre de Pierre. Chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Amen. Vous avez entendu le mot espérance qui revient dans tout ce que nous avons lu. Le thème que j'ai eu dans mon cœur, c'est espérer en Dieu. Quand le monde nous pousse à la désespérance, quand les problèmes nous poussent à la désespérance, le Seigneur nous rappelle que nous devons nous tenir à ses pieds et espérer en lui. J'ai eu donc dans mon cœur le thème de l'espérance. C'est quoi l'espérance? Il y a bien sûr le sens commun que nous connaissons, ce sentiment qui consiste à attendre avec une certaine confiance la réalisation de ce que l'on désire, de ce que l'on souhaite. J'espère me marier l'année prochaine. Les jeunes, on les entend nous dire comme ça avec beaucoup de joie, puisque j'ai une fiancée, j'ai un fiancé. J'espère que je réussirai à mes études. Cela étant, les mathématiques, par contre, j'ai 8 sur 20, mais j'espère. Donc, avec une certaine confiance, quelquefois avec le doute. Ça, c'est le sens commun. Mais par contre, dans le sens biblique, c'est là ce que nous allons voir ensemble. Dans le sens biblique, nous trouvons l'espérance qui est dans ce pacte, qui est indissociable de la foi. Alors, Hébreux 11, vous connaissez le chapitre de la foi. Hébreux chapitre 11. Tournons les pages. Hébreux chapitre 11, vers la fin de la Bible. Premier verset. Hébreux 11, premier verset. Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Est-ce que vous avez tous le mot « espère » ? Y a-t-il une version qui n'a pas le mot « espère » ? En général, il y est toujours. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère. Il est dit deux choses, les choses que l'on espère et les choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère, c'est des choses qui ne sont pas encore en place, qui sont attendues, qui sont à venir. Nous espérons, par exemple, le retour de Jésus-Christ. Alléluia ! Jésus reviendra. C'est dans l'avenir, c'est des choses qu'on espère. Mais nous avons cette assurance. Il y a d'autres choses qui sont déjà là, mais qui sont invisibles. Voyez, souvent, quand on relit, c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est vrai. On se dit, mais je n'avais jamais perçu ça. Je vous assure, quand j'ai relu, j'ai perçu ceci. Dans ce verset, il y a deux choses à distinguer. Les choses à venir, c'est l'espérance. Il y a des choses présentes qu'on ne voit pas. Par exemple, aujourd'hui, je suis sûr et certain, vous le croyez, le Seigneur, le Tout-Puissant, à qui appartient l'Église et l'Église locale, il est ici présent. Alléluia. Nous croyons que Dieu, il est là. Il nous observe, il nous entend, il lit dans nos cœurs. Mais nous ne le voyons pas avec nos yeux. Et pourtant, nous avons l'assurance qu'il est là. Donc, je voulais juste souligner ceci, que l'espérance, vous avez vu vous-même, que c'est dans le pacte de la foi. Vous ne les dissociez pas. Hein? Donc, nous devons donc avoir la foi, la certitude, l'assurance dans les choses, bien sûr, que Dieu lui-même met en place ou mettra en place et qui ne sont pas encore là. Et parmi ces choses, donc, voyez que la foi, elle est vraiment dans le pacte de l'espérance. Or, la Bible nous dit ceci, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et comme la foi et l'espérance, ça se tient, eh bien, vous voyez, si on déduit, c'est clair et net. Si nous sommes assis dans la désespérance, si nous sommes assis dans le désespoir, sans réagir, eh bien, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à Dieu dans cette situation-là, puisque l'espérance fait corps avec la foi. La foi, la ferme espérance, la ferme assurance dans les choses qu'on espère, et l'assurance aussi dans les choses qu'on ne voit pas. Je tenais donc, voyez, je vous pointe du doigt, mes trois doigts sont dirigés vers moi. C'est que ça m'a beaucoup aidé puisque je venais de passer une période compliquée. Non pas parce que j'ai des problèmes à titre personnel ou en famille, mais parce que nous venons d'un pays que nous avons dû abandonner parce qu'il y a, eu des génocides. On est resté ici pour sauver notre peau. On espérait bien sûr y retourner vieillir dans ce pays, puisque bientôt c'est la retraite. Je m'en approche. Mon épouse aussi un tout petit peu. Et voilà que nous avons voilà une politique qui nous replonge dans des choses compliquées. Et du coup, ça m'a beaucoup vraiment remué. J'avais le projet, on avait le projet ensemble de retourner vieillir dans notre pays. Maintenant, ça chamboule tout. Ce n'est plus certain. J'ai eu vraiment un moment où j'ai été déstabilisé. Je suis allé voir mon médecin qui m'a fait faire une panoplie d'examens, puisque vous savez ce qu'on appelle les choses psychosomatiques, hein, somatisées. C'est ce qui m'est arrivé. Jusqu'au jour où mon médecin m'a dit, Monsieur Sinarenzi, je vais vous dire votre problème. Vous avez mal au Burundi. Le pays s'appelle Burundi. Il a dit, vous avez pas mal en vous. Vous avez mal au Burundi. Il m'a dit, je suis juif, je connais ces choses. Et j'ai dit, là, il faut réagir. Il faut réagir. Il faut se remettre devant le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui nous console. C'est le Seigneur qui nous redonne l'espérance. Donc, voyez, l'espérance et la foi, c'est un pacte indissociable. J'obtiens à nous le dire, et à me le dire, à me pointer du doigt moi-même. Nous n'avons pas, je n'allais pas dire nous n'avons pas le droit, mais nous ne nous permettons pas de nous asseoir dans la désespérance et de nous coucher dans le désespoir. Ça ne plaît pas à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pareil, puisque, vous voyez, j'insistais beaucoup, je me répète, je sais me répéter, car les choses sont sérieuses, la foi et l'espérance sont ensemble et indissociables. Vous l'avez lu avec moi. Donc, à mon frère, à ma sœur, qui peut être dans un moment compliqué, j'allais vous dire, au nom de Jésus-Christ, levez la tête. Au nom de Jésus-Christ, battez-vous. Et la bataille, c'est comment? C'est se mettre à genoux. Seigneur, redonne-moi la paix. Alléluia. Donc, je tenais donc vraiment à souligner ça que on ne se couche pas dans la désespérance. Il est impossible que ça plaise à Dieu. Au contraire, celui qui va tourner autour de nous, qui va s'en réjouir, c'est l'ennemi de notre âme. Il va se dire, celui-là, je l'ai. S'il continue à désespérer, je l'aurai complètement. Alors, nous réagissons en nous appuyant sur la parole. Pourquoi donc l'espérance? Parce que, la Bible est claire, l'espérance en Dieu ne trompe pas. Je vais vous lire, vous pourrez le noter si vous voulez, beaucoup de versets dans la Bible. Dans les psaumes, « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Tu es mon espérance. » Il n'a pas dit « Tu me donnes l'espérance ». Il a dit « Tu es, Dieu est l'espérance. Il est notre salut, il est notre Dieu. Il a dit, tu es l'espérance. Un Pierre, lisons-le. Vous êtes dans Hébreux toujours, tournez les pages à côté. Un Pierre. Premier chapitre, nous l'avons déjà lu. Je tenais à vous faire remarquer quelque chose. Je relis ceci que nous avons lu. 1 Pierre, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et regardez ceci. Pour une espérance vivante. Vous avez vu ce mot? C'est une espérance, c'est pas seulement l'espérance. C'est une espérance vivante. Alléluia. Parce que Dieu, il est notre espérance. Et l'Éternel est vivant. Et il ne meurt jamais. Alléluia. Et Timothée disait pareil. Timothée 1, premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Il n'est pas dit seulement qu'il nous donne l'espérance. Vous voyez que c'est le verbe être. Il est notre espérance. Il en est la source, il en est le principe, et en lui, il n'y a jamais de désespoir. Il a tellement souffert pour payer ça. Savez-vous qu'il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que c'est lui qui l'a prononcé ? Je pense, moi je me suis dit, dans ce mot, il a crié tous nos désespoirs. Tous nos désespoirs. Il les a pris sur lui. Il est devenu notre espérance. Vivante. Vivante. Amen. J'aimais rappeler chaque fois que je me tiens devant l'Église ceci. N'oubliez jamais que vous ne ressemblez à personne. Vous ne ressemblez pas à moi. Regardez la personne à côté, vous ne ressemblez pas à cette personne. Même si on dit que les gens qui se sont mariés souvent tendent à se ressembler au fil du temps. Vous ne ressemblez à personne. Ce n'est pas un détail. Vous êtes un exemplaire humain unique. Passez dans le monde entier, vous ne ressemblerez jamais à personne. Même quand vous seriez des jumeaux complètement, où je peux moi m'y tromper, papa et maman bien sûr ne se trompent jamais, vous le savez, mais ce qui est dans votre pensée, votre vécu, vos expériences, vos joies et vos peines, est-ce que c'est pareil? C'est jamais pareil. Donc je voulais vous dire, souvent nous avons quelqu'un qui nous écrase, qui nous minimise, qui veut souvent nous démontrer que nous ne sommes pas grand-chose. Il s'appelle l'ennemi de notre âme. Mais celui qui vous a créé, il ne s'y est pas trompé. Il a fait de vous un exemplaire humain unique. Vous ne ressemblez à personne. Donc cette espérance dont je suis en train de vous parler, sachez que ce n'est pas seulement pour le voisin à côté, mais c'est à vous à titre personnel. Personnel. Le Seigneur a payé pour vous à titre personnel. Il a payé nos désespoirs. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans le désespoir, on a tendance à croire que Dieu nous a oubliés. Et là, ça nous arrive, on n'ose pas le verbaliser, mais on dit, où est le Seigneur ? Seigneur, où tu es ? Aide-moi, secours-moi. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est Hébreux 10, 23. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne change jamais. Je voulais donc, dans ce deuxième point, ayant fait le premier point où la foi et l'espérance sont indissociables, ce deuxième point, vous rappelez ceci, c'est une espérance vivante. Et notre espérance, c'est Dieu. Jésus-Christ est notre espérance. Et le Seigneur Jésus, il vous connaît par votre nom. Quand il a payé aussi pour vous l'espérance. Maintenant, tournons la page dans Hébreux. Revenez dans Hébreux. La nécessité de conserver l'espérance. Hébreux chapitre 6, verset 11. Hébreux 6, 11, il est écrit ceci. Nous désirons, Hébreux 6, 11, mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. En vue d'une pleine espérance. Il est parlé d'un empressement. Il est parlé de quelque chose que chacun doit faire, que chacun doit se mobiliser pour être dans cette espérance vivante. Hébreux encore 10. Tournez au chapitre 10, verset 23. confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Confessons notre espérance, je souligne, sans fléchir. Sans fléchir. Il faut s'accrocher dessus. Il faut vraiment garder l'espérance. Hébreux même, vous êtes dans Hébreux. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre. Vous avez vu le mot, c'est pas l'ancre pour écrire, c'est l'ancre. Vous voyez, ce gros morceau, quand un bateau est arrivé, on se dit, il faut qu'il reste là. On déroule quelque chose, une grosse chaîne qui va rentrer profondément dans l'eau de la mer, en sorte que le bateau va rester là. Il y aura du vent, ça va tanguer. Si vraiment l'ancre fonctionne bien, le bateau va rester là. Nous avons tellement de choses qui nous poussent d'un côté et de l'autre. Je vous ai parlé de ce qui me concerne ces derniers temps, jusqu'à ce que mon médecin qui, je ne sais pas s'il est pratiquant croyant, mais il m'a dit quelque chose qui m'a travaillé. Vous avez mal au Burundi. Je ne sais pas où vous avez mal en ce qui vous concerne. Je ne sais pas où vous avez mal. Mais nous avons une ancre. Cette espérance, tant que nous la gardons, la Bible, elle est claire. Ça devient comme quelque chose qui tient d'un côté et de l'autre. Et ça va tanguer bien. Et ça tanguera, mes frères et mes sœurs. On est encore sur la terre. Il y aura des difficultés. Et nous sommes prévenus. Nous le savons tous. Si nous lisons les dernières paroles de Jésus-Christ avant d'être crucifié, comment il prévenait ses disciples, nous savons bien que les temps n'iront pas en s'améliorant. Nous savons que ça va toujours se corser de plus en plus jusqu'à ce qu'il revienne, puisque l'Église ne va pas connaître toute la tribulation. Il connaîtra quelque chose qu'il prépare, mais le Seigneur, il nous a promis qu'il viendra nous chercher. Et moi, je le crois, et vous le croyez aussi. Alléluia! Nous sommes ses enfants, il viendra nous chercher. Et en attendant, bien sûr, si nous passons de cette terre, on sait que ceux qui restent sont tristes et pleurent autour de notre cercueil. Mais nous savons que l'enfant de Dieu, ce n'est pas le corps qui est dans le cercueil. Nous savons que l'âme est déjà partie dans ce lieu qu'on appelle le paradis. Jésus a dit au brigand, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On a mis Jésus dans le tombeau, on a mis le corps dans le tombeau. Mais est-ce que Jésus a menti? Jésus ne ment pas. Ça veut dire que le corps était là, mais son âme était dans le paradis. Et l'âme aussi de ce brigand, dont on a, je ne sais pas si on a enterré son corps, on n'en parlait même pas comment on l'a enterré, mais son âme était avec celle de Jésus-Christ au paradis. Alléluia! Donc, l'ancre, cette espérance est une ancre qui nous tient dans ce monde qui tangue. Vous le voyez vous-même. Il y a comme des douleurs d'enfantement. On ne sait pas ce que ça va donner chacun de nous. Vous l'entendez autour de vous. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Ce n'est pas ce que nous entendons. Mais nous avons le Seigneur. Alléluia. Nous avons notre espérance vivante. Et le Seigneur, c'est l'ancre qui nous tient. Voilà pourquoi donc il nous est demandé, je tenais moi-même en pointant du doigt moi-même, à nous mettre à genoux. Seigneur, remplis-moi de ton espérance vivante. Autrement dit, remplis-moi de toi, puisque tu es mon espérance. On ne peut pas les dissocier. Souvent, il m'arrive de me dire, Seigneur, il m'arrive de te demander des choses au lieu d'abord de te demander toi-même de venir et de remplir mon être entier. Quand il remplit notre être, il vient avec. Cette espérance lui-même, il vient avec. Donc plus que jamais, comme les temps sont compliqués, tenons-nous devant Dieu, plus que jamais, invoquons son nom. Je vous lirai un certain nombre de versets. Écrivant à Timothée, Paul lui dit ceci, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous gens nous en jouissions. » Notre espérance n'est pas, comment dirais-je, ne table pas sur ce que nous avons. Vous pouvez avoir votre maison, béni soit Dieu. Votre bonne voiture qui fonctionne bien, béni soit Dieu. Un bon compte en banque, béni soit le Seigneur. Le travail qui est bien rémunéré, béni soit le Seigneur. Mais si notre espérance, si nous voulons tâter l'espérance, si c'est là que nous allons tâter, ok, ça va, le travail ça va, le compte ça marche, la voiture ça marche, les enfants réussissent, j'ai l'espérance, un jour ça tangue. Un jour, ça tangue. Il y a quelque chose qui ne tangue pas. Jésus-Christ ne tangue pas. Alléluia. Il ne tangue pas, lui. Ne mettons pas notre espérance dans ces choses. Chaque fois que je me lève et que ça marche bien, que je sache me mettre à genoux, Seigneur, c'est toi mon espérance. Tu permets que ça marche, je te bénis. Mais je ne, c'est pas sur ça que je m'appuie. Je m'appuie sur toi. Je te donne ma vie, garde-moi en toi aujourd'hui, remplis-moi, Seigneur, de tes certitudes, remplis-moi de ton espérance. Je ne vais pas te déplaire, puisque comme nous avons dit, à partir du moment où ça se tient avec la foi, sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Or, la foi, nous avons vu que l'espérance en fait partie. L'espérance, la certitude des choses qu'on espère qui ne sont pas encore là, mais aussi la certitude des choses qui sont déjà là. Donc, voilà, l'espérance, sachons-le, souvent nous avons ce piège, ça marche. J'ai vu mon compte en banque, j'ai vu les chiffres, ça marche, c'est bien. J'ai vu les notes et les billets de mes enfants, ça marche, c'est bien. Béni soit le Seigneur, bien sûr. Mais sachons dire, Seigneur, mon espérance est en toi, je vais marcher en toi. Remplis-moi de toi. Je veux qu'autour de moi, il y ait toi, Seigneur, tes anges. Je veux, Seigneur, savoir quand, chaque fois que je suis en train d'avancer, de vivre, c'est toi qui es en moi. C'est toi qui m'aides à avancer. Et ma victoire, c'est toi. Ma réussite, c'est toi. Seigneur, mes succès, c'est toi. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Nous l'avons déjà lu. C'est-à-dire, on va le lire ensemble. Il peut y avoir quelqu'un de découragé ici. Lamentation de Jérémie. Les lamentations de Jérémie, tournez la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Il était découragé. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante et de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance, dans d'autres versions, c'est que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme et se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais m'attendre à lui. L'Éternel est mon partage, je vais m'attendre à lui. Il était là dans les problèmes, il était dans les difficultés, tenté par le désespoir. Vous voyez comment il a réagi, il a tourné le regard vers l'Éternel. Dans les lamentations Jérémie, chapitre 29. Jérémie 29, le contexte, je vais vous le donner. Souvent, on oublie le contexte. Là, Jérémie, donc, il y avait le peuple, une partie du peuple est déportée à Babylone. Et ils l'ont consulté à coup sûr. C'est pas écrit quelque part, mais pour qu'il leur écrive, c'est que derrière ça, je me suis dit, il a entendu des nouvelles, peut-être ils sont venus lui demander, est-ce que c'est maintenant que nous allons rentrer? On n'en peut plus. On est épuisé. On est fatigué. On est désespéré. On veut rentrer chez nous. Et Jérémie va leur écrire. C'est le chapitre 29, verset 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déporté. Il a conjugué ça au futur. Il le voulait dans le présent. On n'en peut plus. Vous est-il déjà arrivé? À genoux du Seigneur, je n'en peux plus. Aie pitié de moi. Ça vous est déjà arrivé? Ou alors de le dire au pasteur, priez pour moi. Je n'en peux plus. On le veut au présent, sinon je m'écroule. Il leur donne une espérance. Ce n'est pas maintenant, mais ce n'est pas quelque chose qui n'arrivera pas. Je le ferai. Ayez foi en moi, ayez confiance en moi. Je ne vous abandonnerai pas à Babylone, je vous ramènerai chez vous. Vous avez lu la Bible, vous avez vu comment un roi païen, un bon jour, un bel appel, vous savez, maintenant il est temps. Vous allez rentrer chez vous. Qu'est-ce qui lui a pris? Personne. Le Seigneur l'a mis ça dans son cœur, dans ce roi païen qui n'adorait pas Dieu, un bon jour, il a décidé que le peuple retournerait dans son pays et ils y sont retournés. Mais le moment où il le désirait, c'est conjugué au futur. Le Seigneur les fait attendre. Est-ce que le Seigneur vous fait attendre? Vous avez demandé quelque chose que vous n'avez pas encore vu? Depuis des mois, depuis des années, le futur, quand il sort de la bouche de l'Éternel, il est digne de foi. Je ne vous oublie pas. Je ne t'oublie pas, mon enfant. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je suis avec toi. Fais-moi confiance. Il pourrait rajouter, je t'y laisse encore un certain temps. Il faut qu'il devienne coriace. Ça veut dire résistant. Tu es en train d'engranger quelque chose. Tu vas pouvoir relever les autres, encourager les autres, rendre témoignage. Encore un certain temps, mais je le ferai, je ne t'oublie pas. Je termine sur cette parole d'espérance pour la personne qui est aujourd'hui au creux de la vague. Quand Dieu conjugue au futur, il a raison. Il est amour, son amour n'a pas baissé pour nous, il sait ce qu'il fait. Alléluia! Il fait, c'est ce qu'il fait. On peut lui faire confiance. Faites-lui confiance. Mettez-vous à genoux. Là où vous étiez en train de désespérer peut-être, même quelquefois il arrive d'être tenté de se révolter. remettez-vous à genoux au même endroit. Seigneur, je me soumets. Je te donne mon être. Domine en moi. Remplis-moi d'espérance vivante. Tu es mon espérance vivante. Remplis-moi de force. Il faut que j'avance. Et le Seigneur, vous allez voir ce qu'il va faire. Et le jour où il le fera, vous vous réjouirez. Ça débordera. Vous ferez plaisir à l'Éternel. Je vais terminer en vous disant, nous allons courber nos fronts devant le Seigneur qui est ici présent, quoique invisible, comme nous avons vu ensemble, des choses qui sont réelles, mais invisibles, mais que nous croyons fermement. Quelqu'un veut-il que nous prions ensemble ce Seigneur qu'il aime, parce qu'il est dans la guerre, dans la bataille, et ça se conjugue au futur, et cette personne est fatiguée. Si c'est votre cas, n'hésitez pas, levez-vous, nous allons prier ensemble. L'Église aussi, c'est un lieu de cette solidarité. Nous avons l'amour du Seigneur en nous, et le Seigneur lui-même, il est présent ici. Il vous connaît par votre nom, il connaît votre histoire, il connaît ce qui se dresse devant vous. Espérez dans le Seigneur, il est votre espérance vivante. Alléluia. Si vous voulez qu'on prie avec vous, levez-vous à votre place. Et nous allons prier ensemble. Le Seigneur va vous fortifier. Je bénis ton nom, Seigneur, puisque tu es notre espérance vivante. Puisque, Seigneur, tu ne changes pas d'un iota, toujours le même, hier, aujourd'hui et à perpétuité. Tu vois, Seigneur, ces frères et sœurs qui se lèvent devant ta face. Seigneur, c'est toi qu'ils invoquent. Nous les accompagnons devant toi, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de les remplir de courage, de les renouveler par l'Esprit Saint. Seigneur, de leur donner cette vigueur miraculeuse. Alléluia. Et qu'ils avancent de triomphe en triomphe. En attendant le jour, ils vont voir, Seigneur, où ça ne se conjuguera pas au futur, mais ça sera au présent, où ils vont voir que les choses changent parce que Dieu l'a décidé ainsi. Nous te bénissons, Seigneur. Aide-les à se soumettre, Seigneur, à être, Seigneur, dans ton repos miraculeux, dans cette puissance miraculeuse, à être vainqueur avec l'Éternel. Merci, notre Sauveur. Je te bénis de tout mon cœur. Amen. Amen.